C'est un plaisir à louer le Seigneur. Le Seigneur a aussi plaisir de nous entendre, je pense. Depuis deux dimanches, bonjour d'abord, parce qu'on m'a dit des fois, il ne faut pas trop démarrer trop vite la prédication, il faut que je salue bien les gens. Je suis content de vous voir, en tout cas je me réjouis, tous ceux qui sont là ce matin. Depuis deux dimanches, nous parcourons quelques passages de l'épître de Jacques. Il y a 15 jours, nous avons rappelé sur la base du chapitre 1 que Dieu ne change pas, qu'il n'y a pas d'éclipse en lui, pas la moindre variation dans son être, ou quoi que ce soit qui pourrait lui faire de l'ombre. Semaine dernière, Sylvie, à partir d'un passage du chapitre 2, a mis en avant la foi vivante par rapport à la foi morte. Et aujourd'hui, je vous propose de prolonger une réflexion sur ce chapitre 2. J'avais dit que je ferais chapitre 3, mais finalement, je suis resté coincé sur la fin du chapitre 2, car il me semble très important, et très important de bien le comprendre. Et je vous lis donc Jacques chapitre 2, à partir du verset 19. C'est le dernier verset que Sylvie avait parcouru. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas ? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'appelait son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes ? Lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin ? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Il est déroutant ce verset 24. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Il a fait couler beaucoup d'encre et a été, et toujours d'ailleurs, l'objet de divergences entre grands courants théologiques parce qu'il semble, à première vue en tout cas, contredire la doctrine que nous professons du salut par la foi seule. Et notre but ce matin n'est pas de polémiquer, mais d'aider, j'espère, à bien asseoir ou renforcer nos convictions et certitudes en la matière. Nous nous plaisons à rappeler, et je le fais souvent dans les études bibliques découvertes de la foi, la distinction majeure, la complète différence même de logique entre la religion ou les religions qui nous disent qu'il faut faire ceci ou faire cela, ne pas faire ceci ou ne pas faire cela pour s'élever vers le ciel, être agréable à Dieu et essayer de le rejoindre. Sur cette image, je n'ai mis que quelques exemples et il y en aurait plein d'autres. Des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, bien au contraire, mais par ces choses, beaucoup essayent, laborieusement, fidèlement aussi, il faut bien le reconnaître, beaucoup font leurs efforts, tous leurs efforts pour s'élever, pour, comme on l'a évoqué ce matin, essayer de trouver le chemin du paradis. Parfois, certaines choses peuvent être disproportionnées, l'équilibre est parfois instable, peu de choses peuvent tout chambouler. Et quoi qu'il en soit, dans cette façon de construire sa vie, on est quand même, il faut bien reconnaître, toujours très loin du compte, car personne ne peut jamais mériter assez pour rejoindre Dieu. Entre la religion par laquelle l'homme essaye de s'élever vers Dieu par ses propres mérites et la relation que Dieu propose, il y a effectivement une différence fondamentale. Ce sont des logiques diamétralement opposées. La première façon, par mes forces, mon intelligence, mes mérites, n'aboutira pas. C'est la Bible qui le dit. Le péché de l'homme le disqualifiera toujours face à la sainteté de Dieu. Le péché de l'homme le disqualifiera toujours face à la sainteté de Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. C'est lui qui est venu nous rejoindre dans nos limites, dans nos manquements, dans nos péchés, notre imperfection. Et par amour, par grâce, il nous a sauvés. Tout simplement. Même si ce n'est pas toujours si simple de l'accepter. Les évangiles le disent, et j'ai pris par exemple une parole de Jésus que tout le monde connaît, que tout chrétien devrait apprendre en tout cas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et l'apôtre Paul le confirme aussi, en Éphésiens notamment, Éphésiens 2, verset 8 et 9, verset majeur aussi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. On sait certainement déjà cela, depuis longtemps peut-être. Mais alors comment faisons-nous avec ce passage de Jacques ? Comment comprenons-nous ce qu'il a écrit et qui semble pour le moins contradictoire ? Première chose déjà, dites souvent aussi, mais que je répète, aucun verset de la Bible n'est à considérer de manière isolée. La Bible est un tout, et un tout cohérent. C'est ce que l'on professe en tout cas, et il faut donc réfléchir à partir de cela, de ce constat. On ne peut pas prendre une partie qui nous plaît, de façon isolée, on ne peut pas non plus rejeter une partie qui ne nous plaît pas. Il faut alors, et en tout cas, creuser, réfléchir au-delà des apparences. Nous devons bel et bien sonder les Écritures, disent des versets. Et alors, j'espère, on se rendra compte, notamment à partir du contexte, ou des personnes à qui l'auteur écrit, que les différences ou les contradictions apparentes ne sont justement qu'apparentes et que ces textes sont plutôt complémentaires. Je rappelle que Jacques et Paul se connaissaient et s'estimaient. Il n'y avait pas de conflit de personnes ou de doctrine entre eux. On le voit dans des passages qui en parlent dans le livre des Actes ou en Galates. Et je rappelle que Jacques et Jésus aussi se connaissaient. Je l'avais rappelé il y a 15 jours, Jacques est aussi fils de Joseph et de Marie, c'est le demi-frère de Jésus. Et depuis sa découverte de Jésus comme le Christ, Jacques et Jésus s'estiment aussi. En fait, quand Paul insiste à juste titre sur le fait que la foi sauve, la justification par la foi seule, il écrit à des gens qui sont majoritairement d'origine païenne. Et je rappelle que Paul est appelé l'apôtre des païens. C'est lui qui est le premier à apporter la bonne nouvelle de l'évangile en Asie mineure, ce qui serait la Turquie actuelle, et en Grèce. Et Paul veut insister sur le fait qu'en devenant chrétien, ses interlocuteurs n'adoptent pas une nouvelle religion qui leur permettrait à force d'œuvre d'être agréable et méritant devant Dieu. C'est ce que les images de tout à l'heure, avec ces cailloux entassés l'un au-dessus de l'autre, illustraient. Et pourtant, certains chrétiens d'origine juive comprenaient mal le salut par grâce et cherchaient régulièrement à imposer, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les païens convertis, ils cherchaient à imposer en plus le respect de certaines pratiques religieuses juives. Ils voulaient rajouter à la foi des obligations comme la circoncision, le respect du sabbat, des règles alimentaires, etc., etc. Et cela créait des tensions dans les communautés, comme on peut le lire dans le livre des Actes ou à travers les épîtres de Paul. Parfois, c'était même plus qu'une simple mauvaise compréhension. c'était carrément des juifs qui faussement se disaient chrétiens et qui venaient dans les églises pour volontairement semer le trouble. Et Paul s'est continuellement battu contre cela. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Et il a pleinement raison. Foi chrétienne contre œuvre de la loi, loi juive, mais aussi n'importe quelle loi religieuse, c'est le combat et le propos de l'apôtre Paul. Nous sommes aussi invités, nous sommes aussi sauvés par la foi en Christ. Vous pouvez aussi être sauvé par la foi en Christ. Vous ne pouvez être sauvé que par la foi en Christ. Rien d'autre ne viendra dans la balance en notre faveur. Rien d'autre ne nous permettra de nous élever vers Dieu. Si on commence à rajouter la moindre obligation légale, alors il faut prendre en compte toute la loi, tous les commandements, dit par ailleurs Paul. Et plusieurs siècles d'histoire du peuple juif ont clairement montré que personne ne pouvait jamais parfaitement accomplir la loi. Et nous savons que c'est le cas aussi pour nos propres vies. Nous sommes alors condamnés, et c'est bien pour cela qu'il nous faut la grâce. Jacques ne dit pas autre chose, mais Jacques, et je rappelle qu'il est lui devenu un des responsables de l'église de Jérusalem, lui il écrit à des gens qui sont majoritairement juifs d'origine, des gens qui sont fiers de pouvoir dire qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Comme vous le savez, je le rappelle aussi, les Juifs étaient à l'époque de Jésus les seuls monothéistes de toute l'Antiquité. La seule nation qui n'adorait qu'un seul Dieu au milieu de nations païennes, polythéistes, avec 400 et quelques dieux en Égypte, pareil chez les Romains, pareil chez les Grecs. Les seuls monothéistes, et c'était une vraie fierté identitaire pour eux. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Deutéronome chapitre 6 verset 4. C'est la base de la culture et de l'identité juive. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et les Juifs devaient le répéter tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est le credo de la religion juive. Et dans un certain sens, ils n'ont pas tort d'être fiers de cela. Car c'est primordial de croire qu'il y a un seul Dieu. Mais Jacques leur envoie le verset 19 de notre passage à ces juifs religieux et il leur dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. » Croire qu'il y a un seul Dieu, ou plutôt avoir connaissance du fait qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Beaucoup de juifs religieux avaient malheureusement cette fausse impression du temps de Jésus et de Jacques, une certaine suffisance, que comme ils faisaient quand même partie du peuple de Dieu par naissance, alors ils étaient juste devant Dieu, obligatoirement sauvés. C'est peut-être malheureusement ce que l'on pense encore dans certaines églises de nos jours. Peut-être même que certains d'entre nous le pensent aussi. Croire qu'il y a un seul Dieu, ou plutôt avoir connaissance du fait qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Car ça ne veut pas dire qu'on a une relation personnelle avec Dieu. Ça ne veut pas dire avoir une communion et une communication réelle avec lui. Ça ne veut pas dire s'être réconcilié, avoir accepté son pardon et être justifié et sauvé devant lui. Ça ne veut pas dire avoir une foi vivante, ni une vie quotidienne réellement impactée et guidée par Dieu. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Croyance juive contre œuvre de la foi. C'est le combat et le propos de Jacques. Jacques met simplement en avant le fait, et il a alors aussi pleinement raison, que c'est faire preuve d'un grave manque de réflexion que de penser pouvoir dissocier la foi et les actes. Dans le verset 20 de notre passage, la traduction du Nouveau Bible Sommaire est particulièrement forte, hein, il veut interpeller à ce sujet. Il dit « Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile ?» Tête creuse, sympa hein, quand même. Ça veut dire en gros, vous n'avez qu'un point chiffre dans la tête si vous croyez que vous pouvez simplement dire « Je suis sauvé parce que je crois en un seul Dieu ». Si votre vie ne le reflète pas, ce n'est pas une foi réelle. Seuls les actes prouvent que la foi est plus qu'une simple croyance. Seuls les actes prouvent que la foi est plus qu'une simple croyance. Seuls les actes démontrent que notre foi en Dieu n'est pas juste quelque chose de superficiel ou de tradition. Ce qui prouvera que nous sommes en règle avec Dieu, qui démontrera que nous avons été pardonnés, que nous avons été justifiés, et donc que nous avons été sauvés par notre foi en Jésus-Christ le Sauveur, ce seront les fruits que nous porterons. Les vrais chrétiens se voient à leurs fruits. Car alors Jésus est effectivement Seigneur de la vie de ces chrétiens. Jésus lui-même le dit d'ailleurs à maintes reprises dans les évangiles, par exemple en Matthieu 7, versets 20 et 21, il dit « Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons accompli la volonté de Dieu, par nos propres efforts ou mérites, ni totalement, on l'a déjà souligné, mais ni même partiellement, par un petit peu de mérite quand même. Non. Nos petits mérites ou notre accomplissement partiel ne participent pas non plus à notre justification et à notre salut. Ni beaucoup, ni un peu, pas du tout. Nos œuvres ne sont pas prises en compte du tout pour, comme une coopération peut-être, que ne serait-ce que partielle dans notre acquisition ou notre conservation du salut ou quoi que ce soit de ce genre, comme certains le croient. Non. Tant pis pour notre orgueil, nous ne serons jamais suffisamment parfaits. Ça, nous en sommes sûrement déjà convaincus, je pense. Mais la Bible insiste et dit que même les moindres petits défauts microscopiques que l'on pourrait avoir dans nos vies nous disqualifient. Même si nous pourrions peut-être prétendre à un peu de mérite, ils ne pèseront rien dans la balance. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons accompli peu ou prou la volonté de Dieu, mais nous accomplissons, c'est notre ardent désir, en tout cas, d'accomplir la volonté de Dieu parce que nous sommes sauvés. La logique est bien différente. Nous ne faisons pas pour être sauvés, nous sommes sauvés, alors nous faisons. Les actes deviennent une conséquence et le gage d'une foi vivante. La preuve évidente de la foi que nous avons et qui nous a préalablement et réellement sauvés. Car alors Dieu, quand nous le connaissons réellement personnellement, Dieu nous transforme et Dieu nous rend capables de faire des œuvres bonnes. Si nous sommes sauvés, nous sommes transformés. Petit à petit, c'est vrai. Mais Dieu agit dans nos vies. Paul ne dit pas autre chose, et je relis les versets d'Éphésiens de tout à l'heure, en rajoutant le verset 10, Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est donc bien une grâce de sa part. Car notre union avec le Christ Jésus, donc par la foi qui sauve, Dieu nous a créés, nous sommes effectivement des nouvelles créatures, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Si nous avons une vraie foi, alors nous agirons pour et par Dieu. Facile, non ? Pas toujours. Jacques et Paul disent effectivement la même chose. Nos œuvres prouveront que nous avons la foi, et c'est cette foi qui nous aura sauvés. J'insiste lourdement. Certains d'entre vous qui savaient déjà cela, vous me trouveront peut-être excessif dans cette insistance, mais il y a une telle propension humaine à vouloir coparticiper à notre salut, peut-être un risque aussi de légalisme, peut s'installer facilement dans les églises ou dans nos esprits, dans nos cœurs, que je pense qu'il est important de vraiment souligner cela. Pour ne pas mal comprendre ce genre de verset, consciemment ou inconsciemment, non, nous ne coparticipons pas à notre salut, mais oui, nous sommes sauvés par la foi, et après nous pouvons faire de bonnes œuvres. Peut-être pourrons-nous mieux l'expliquer aussi à nos contemporains, pauvres contemporains qui s'acharnent par leurs efforts à essayer de s'élever, pauvres contemporains qui, par leurs efforts, essayent de faire de bonnes choses pour essayer de plaire à Dieu, alors que Dieu a déjà tout fait en Jésus, à la croix. Toute notre compréhension du salut dépend d'une bonne compréhension de ces passages. Et tout ce qui motive donc notre quotidien, l'intention de tout ce que nous faisons, la motivation de tout ce que nous disons, dépend aussi de notre bonne compréhension de cela. Est-ce que le matin on se lève en disant « Ah, aujourd'hui il faut que je fasse des choses pour plaire à Dieu, sinon il ne va pas être content » Ou est-ce qu'on dit « Seigneur, merci de ta grâce et merci parce que tu m'aides à faire des bonnes choses par ta force, par ton esprit agissant en moi ?» En tout cas, moi, je trouve ce rappel apaisant. Je trouve ce rappel apaisant parce que je n'ai pas d'effort à faire pour plaire à Dieu et obtenir sa faveur. Je n'ai pas d'effort à faire pour plaire à Dieu et obtenir sa faveur. Ce poids-là a été enlevé de mes épaules. Mais je veux plaire à Dieu. Pas toujours, mais avec son aide, je veux plaire à Dieu pour y arriver. Parce que je suis reconnaissant. Reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi, et parce qu'on l'a déjà dit, il me transforme. Par son esprit qui agit en moi, il me rend capable de faire ces œuvres bonnes qu'il veut que je fasse. C'est un cadeau de la part de Dieu, un don excellent qui vient de lui, pour reprendre un autre élément du chapitre 1 que nous avons déjà abordé. Et ça, ça change vraiment tout dans la logique de nos vies. Jacques donne quelques exemples dans le chapitre 3. On ne va pas tous les parcourir. La maîtrise de la langue, dans la première partie du chapitre 3 notamment, je ne vais pas l'aborder. Chose que je pense nous connaissons. Chose qui ne sera possible de pouvoir maîtriser pleinement sa langue que si effectivement Dieu change nos cœurs. Jésus avait aussi dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Veillons toujours à ce que nous disons, et surtout, demandons à Dieu de nous changer de l'intérieur en profondeur, et pas juste superficiellement. Mais je vous invite plutôt à lire la fin du chapitre 3. J'espère que ce n'est pas trop petit. Versets qui rebondissent bien sur cet aspect de foi et œuvre. Et nous verrons alors facilement des choses concrètes auxquelles nous pouvons être appelés. Comme même je dirais, on est tous appelés d'ailleurs, et celles qui au contraire sont à fuir. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si notre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habitent le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure, de plus elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. » Je trouve intéressant cette mention par Jacques de l'homme livré à ses seules ressources, qui rejoint ce que l'on a évoqué au début de ce message concernant les personnes qui essayent de s'élever par leurs propres forces et mérites. Jacques souligne qu'il y a un gros problème de fond en cela, un problème de cœur, un problème de source, d'où vient ce qui nous anime. Cela vient-il du monde ou de Dieu? Sagesse d'en haut ou sagesse du monde? Sagesse démoniaque, dit-il même. Les mots sont encore là très forts de la part de Jacques, et Jacques n'utilise jamais de langue de bois quand il s'exprime. Ça ne veut pas dire, je pense, que les personnes qui agissent par leur propre force sont possédées par des démons. Avant que je ne devienne chrétien, je peux vous assurer que je n'étais pas possédé par un démon, mais l'influence qui m'influençait, un pléonasme, mais l'influence qui m'influençait justement, sinon qui me guidait, était bel et bien opposée à Dieu. Et en cela, elle était inspirée par l'ennemi, par le diable, si on veut utiliser des mots un peu tabous peut-être. C'est binaire, mais si nous ne sommes pas à Christ, nous sommes contre lui et nous sommes du diable. Mais Dieu change tout cela. Dieu nous reformate, dans le bon sens du terme. Il change notre logiciel. Tout ce qui nous anime, qui anime notre vie, notre volonté, nos envies, nos principes, nos logiques, nos aspirations, nos motivations, il change tout cela. Et finalement, Dieu change les fruits de nos vies. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. On peut retrouver un écho à ce verset de Romains 14 qui était évoqué tout à l'heure. Et si nous manquons de sagesse, de cette sagesse d'en haut, Jacques nous dit simplement de la demander à Dieu. Et Dieu la donne généreusement. C'est aussi une promesse de sa part. Ne travaillons donc pas par nos propres forces ou efforts, mais laissons Dieu, demandons à Dieu de nous transformer toujours et encore, en profondeur dans notre être, dans nos vies, pour que notre foi soit vivante et qu'elle manifeste des fruits visibles à sa gloire et à sa seule gloire. Et alors oui, nos vies et notre Église seront belles et riches de toutes ces œuvres bonnes, attestant que nous sommes justes devant Dieu, par sa seule grâce, en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à prier. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup de fois où nous essayons de faire des choses pour essayer de te plaire, pour essayer de t'être agréable, pour essayer d'acquérir quelques mérites. Des bonnes choses au demeurant. L'intention est louable, mais nous savons que par nos propres forces, nous n'arriverons pas bien haut. C'est de ta grâce dont nous avons besoin. C'est de ta main tendue que nous devons saisir. C'est de ton pardon, et motivé par ton amour, par ta sagesse, que nous pourrons réellement avancer et être transformés. Oui, je te remercie, Seigneur, de m'avoir fait comprendre cela un jour dans ma vie. Pas besoin de faire d'efforts pour être sauvé, mais juste croire que toi, tu as tout déjà fait, déjà tout fait. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour la vie nouvelle que tu donnes par ta résurrection. Merci d'avoir changé ma vie. Et en reconnaissance, Seigneur, en remerciement, je voudrais vraiment que tu alignes ma volonté sur la tienne, que tu continues à transformer ma vie pour qu'elle soit à ta gloire, pour qu'elle reflète ta personne, pour qu'elle soit un témoignage autour de moi. Merci parce que je suis déjà juste devant toi, couvert par le sang du Christ. Mais je ne veux pas chercher à me lever, moi. Je veux simplement, oui, vivre la vie et les œuvres bonnes que tu lui as préparées d'avance, les pratiquer, avec ce souci que d'autres qui sont encore dans les ténèbres, d'autres qui se débattent encore avec leurs problèmes ou avec leur propre justice, puissent découvrir la réconciliation avec toi, le pardon avec toi, la vie nouvelle avec toi, parce que tu es un Dieu qui veut vraiment changer les vies. Je te remets ici chacun, ceux qui te connaissent déjà, ceux qui ne te connaissent pas encore réellement, où ils transforment encore nos vies, pour ta gloire et par ton œuvre dans l'esprit. Je te remercie Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes bienfaits. Amen.